France Musique.
Nietzsche ou les errances d'un philosophe. Fils et petit-fils de pasteurs luthériens, Friedrich Nietzsche naît en 1844. L'enfant n'a pas encore 5 ans lorsque son père meurt. Il perd un être délicat et aimable. Peu après, c'est son jeune frère Joseph qui est emporté. À l'âge de 9 ans, il apprend le piano et se met à composer. La musique est alors pour lui un moyen d'expression de sentiments indicibles et un remède aux souffrances que la vie lui impose. Elle est pour l'âme de Nietzsche son premier refuge. Une jeunesse errante en Allemagne le conduit au collège classique de Pforta, en Thuringe, et il renonce dès lors à tout projet artistique et à une carrière de musicien. Il compose pourtant une cinquantaine de pièces musicales. Puis des études aux universités de Bonn et de Leipzig le conduisent vers la théologie et la philologie classique. Il n'a que 25 ans lorsqu'il est nommé professeur à l'université de Bâle. Il est alors promis à une très belle carrière académique. Le 8 novembre 1868, il rencontre à Leipzig le couple que forment le compositeur Richard Wagner et Cosima van Bülow, la seconde fille du compositeur Franz Liszt. Cette rencontre va transformer la vie du jeune universitaire. Il admire le génie novateur du maître de la musique de l'avenir. Il vit alors quelques années d'exaltation créatrice à l'ombre du compositeur de Tristan. Tristan et Isolde, inspiré de la légende celtique du XIIe siècle, est l'opéra de l'amour et du désir inassouvi, où la musique est un enlacement sans fin. En 1872, Nietzsche lui dédie son premier ouvrage, La naissance de la tragédie, à partir de l'esprit de la musique. L'écrivain musicien trouve en Dionysos cette même force créatrice. Libératrice des passions, volonté de puissance, la musique est tout. Sans musique, la vie serait une erreur, dira-t-il quelques années plus tard. Le professeur de philologie de 32 ans dissimule sa mauvaise santé derrière une énorme moustache noire et d'épaisses lunettes à verre fumé. Il décide d'effectuer à l'automne 1876 son premier voyage en Italie. Il est alors accompagné du philosophe Paul Rey et d'un étudiant bâlois, Albert Brenner. L'homme venu du Nord découvre les grands ports italiens peuplés d'une foule animée et cosmopolite. Mais aussi la sensualité latine et l'éblouissante lumière du Sud. Arrivé à Sorrente, Nietzsche et ses compagnons s'installent à la Villa Rubinacci, louée par son amie, la baronne Malwida von Meisenburg. Durant 6 mois, ce lieu enchanteur, conçu par son hôtesse comme un cloître pour esprit libre, offre à Friedrich Nietzsche la sérénité et l'inspiration pour écrire son ouvrage « Humain, trop humain ». C'est à Voltaire qu'il le dédie. Les journées sont ponctuées de visites au Wagner, leurs voisins, de séances de lecture commune, d'excursions à Pompéi et à Naples. Ce premier séjour en Italie lui permet d'approfondir sa pensée et d'énoncer une nouvelle morale, mais aussi de se distancer du compositeur Richard Wagner. L'idéologie antisémite de ce dernier l'abaisse à tenir des propos méprisables que Nietzsche ne peut supporter. Wagner rejette le premier volume de Humain, trop humain. Nietzsche rejette le Parsifal. C'est la rupture. La santé du philosophe est préoccupante et en 1879, il est contraint de démissionner de son poste et de quitter Bâle. Nietzsche mène alors une vie errante pendant les 10 années qui suivent. À travers l'Europe, à la recherche d'un climat propice, sans doute s'est-il parfois trompé dans ses destinations. Car selon lui, il n'est donné à personne de vivre indifféremment n'importe où. Et celui qui a de grandes tâches à résoudre, des tâches qui mettent à contribution toute sa vigueur, n'a même qu'un choix très restreint à faire. Il se rend d'abord à Venise, la ville aux 100 profondes solitudes. Il est accompagné du musicien Peter Gast, qui partage son goût du piano à quatre mains. Dans les salons du palais Berlindis, à deux pas du ghetto de la cité des Doges, il écrit une grande partie de Aurore et des réflexions sur les préjugés moraux. Il rejoue Chopin. « Quand je cherche un mot pour remplacer celui de musique, nous dit-il, je ne trouve jamais que le mot Venise. » Marienbad, Naumbourg chez sa mère, Nietzsche poursuit ses errances et revient à Gênes au printemps 1881. Il se réfugie dans une mansarde d'un palais de la Salite et dell'El Padistine. Il mène alors une vie d'ascète. Mais l'été suivant, à 6000 pieds au-dessus de la mer et bien plus haut encore, par-delà toutes choses humaines, nous dit-il, Nietzsche a la révélation de Zarathoustra, ce sage solitaire et visionnaire, mais aussi de l'éternel retour, cette grande volonté de joie et de vie du surhomme. Alors qu'il séjourne dans le canton suisse des Grisons, à Sils Maria, il se promène au bord du lac de Silvaplana. Sous le souffle malicieux et heureux du vent, il prend conscience de l'éternité. J'étais assis là, dans l'attente de rien, par-delà le bien et le mal, jouissant tantôt de la lumière, tantôt de l'ombre, abandonné à ce jeu, au lac, au midi, au temps sans but. Alors, ami, soudain, un est devenu deux, et Zarathoustra passa auprès de moi. Nietzsche poursuit son errance, sa quête solitaire. Retourne à Gênes, il termine alors le gai savoir. C'est la mort de Dieu et la victoire de l'esprit libre. À Gênes, il se rend à l'opéra et découvre Carmen de Bizet. Cette musique solaire le délivre des harmonies wagnériennes qui, selon lui, sont décadentes, obsessionnelles et dangereuses. À la musique engluée dans les brumes du Moyen-Âge du compositeur allemand ou la sombre mythologie nordique, Nietzsche oppose les formes nettes et lumineuses de l'opéra de Bizet. Dans son livre « Le cas Wagner », l'une des charges les plus violentes jamais portées contre un compositeur, il affirme « Chaque fois que j'ai entendu Carmen, je me suis senti plus philosophe, meilleur philosophe. Plus on devient musicien, plus on devient philosophe. » À partir de 1882, l'écrivain reprend ses vagabondages italiens tout en continuant à écrire. Solitaire, il vit pendant des mois dans de simples auberges entre Rapallo et Portofino. Il commence alors l'écriture de « Ainsi parlait Zarathoustra ». Puis Rome en 1884 pour nous offrir « Le chant de la nuit ». Il fait nuit, voici que s'élève plus haut la voix des fontaines jaillissantes. Et mon âme, elle aussi, est une fontaine jaillissante. Nietzsche séjourne chez son ami et peintre suisse Max Müller, place Berberini. Non loin de là, la fontaine du Triton laisse jaillir ses eaux. Durant les années qui suivent, Nietzsche séjourne à Venise, à Leipzig, au lac Majeur, en Engadine et en France, à Villefranche et à Nice. Il passe 5 hivers consécutifs sous le ciel clair de la Côte d'Azur. La ville baigne à ses yeux dans la philosophie grecque. Il y sent quelque chose de vainqueur et de sur-européen. Pour lui, Nice, c'est l'état de grâce, entrecoupé d'excès de solitude. Il lit Maupassant, Baudelaire, Bourget, les Goncourt, Taine. Il termine Zarathoustra. Puis il applaudit encore une fois Carmen et regagne Turin. Pendant l'été 1889, Nietzsche est presque aveugle. Il écrit encore à Sils Maria le crépuscule des idoles et l'Antéchrist. Fin septembre, de retour dans la capitale piémontaise, il travaille à son autobiographie « Ecce Homo » ou « Comment l'on devient ce que l'on est ». Mais le 3 janvier 1889, il s'effondre dans une rue de Turin, victime d'une crise de démence. Paralysé et mentalement diminué, Nietzsche vit encore 11 ans chez sa mère à Naumbourg, puis auprès de sa sœur à Weimar où il meurt le 25 août 1900. « Je suis un voyageur » et un grimpeur de montagne, dit-il à son cœur. Je n'aime pas les plaines, et il me semble que je ne puis pas rester tranquille longtemps. Et quelle que soit ma destinée, quel que soit l'événement qui m'arrive, ce sera toujours pour moi un voyage ou une ascension. On finit par ne plus vivre que ce que l'on a en soi. Ainsi parlait Zarathoustra.
À réécouter sur francemusique.fr.